échanges intra-Union européenne. Je ne sais pas si ça se voit tellement, mais en 1993, il y avait 12 États dans la communauté européenne d'alors. Et donc, les échanges entre les pays de l'Union européenne se montaient à 671 milliards d'euros. En 2021, c'est, je ne peux pas faire le calcul de tête là rapidement, mais 3 428 milliards d'euros. Ça veut dire que les États échangent entre eux. Le commerce s'est incroyablement dynamisé entre les États de la zone de l'Union européenne, du fait de ce dont je parlais, hein, de la disparition des barrières, du fait que les produits circulent librement. Et puis, l'autre avantage, c'est le fait que nous sommes un bloc commercial qui est puissant et qui, en tout cas, fait jeu égal à peu près avec les deux autres blocs que sont la Chine et les États-Unis. Alors là, vous avez la part de l'Union européenne dans les exportations mondiales. Vous voyez que là, on est un peu, donc c'est 15% hein, pour l'Union européenne, 15%, en tout cas l'Union européenne participe à 15% des échanges mondiaux en étant exportatrice de biens. La Chine, c'est plus, hein, 19%. Les États-Unis, c'est moins que nous, hein, 10%. En revanche, pour les importations, c'est à peu près équivalent, hein, 13,9% pour l'Union européenne, 14,8% pour la Chine, et c'est les États-Unis qui, eux, sont davantage, un peu davantage importateurs, avec 16%. Donc, ça vous montre quand même qu'on tient là, on tient à peu près le niveau de ces autres blocs économiques, même s'il y a cette petite musique qui serait que l'Europe serait en décrochage et que, justement, elle est en perte de vitesse. On entend beaucoup ça, hein, de la part de certains partis politiques, d'ailleurs, qui en profitent pour réclamer notamment de déréguler parce que y aurait trop de réglementation et ce serait insupportable pour les entreprises. Donc c'est de ça aussi dont je vais un peu parler parce qu'il y a plusieurs mythes qui entourent hein, cette question du dynamisme économique hein, de l'Union européenne et qu'on peut s'attacher à démanteler un petit peu. Plusieurs mythes, je vais surtout en parler de deux et là je m'appuie sur les travaux de Gabriel Zucman, que vous connaissez, j'imagine, qui est la personne qui essaye de défendre, à part un petit bouquin d'ailleurs qui est très très bien fait, hein, le fait que les milliardaires ne payent pas d'impôts et qu'il faudrait remédier à cette question. Et donc lui, il est économiste et donc il travaille sur ces questions depuis très longtemps. Et bien entendu, la question de savoir si l'Europe est en décrochage économique ou pas par rapport aux États-Unis notamment, puisque c'est quand même un petit peu ce qu'on entend très très souvent dans les médias, c'est souvent un argument des partis politiques également, eh bien lui, il déconstruit ça en disant en fait, il faut qu'on regarde les choses d'un point de vue économique, et ce qui permet ensuite d'être aussi de se rassurer sur notre capacité justement à tenir tête aux États-Unis, hein, puisque c'est de ça dont il va s'agir bientôt. Hein. Il va falloir tenir tête aux États-Unis et donc s'assurer du fait qu'en fait on a les moyens de le faire et qu'on n'est pas en décrochage par rapport à eux. Même si je nuancerai, il y a quand même des points sur lesquels en effet on a un petit peu de retard. Premier mythe, c'est le mythe du décrochage européen, en effet. Notamment qui se fondent surtout sur le fait que le PIB, le produit intérieur brut, en gros c'est la richesse qui est produite par un pays, augmente plus vite aux États-Unis qu'en Europe depuis 15 ans. Et donc très très souvent, je passe sur le schéma. Le schéma qu'on présente le plus souvent, c'est celui-ci, où vous avez trois courbes. Hein, la courbe rouge, pardon, qui est en bas pour la Chine, hein, donc augmentation là, constante du produit intérieur brut. La ligne jaune qui est tout au-dessus, c'est celle des États-Unis. Donc on voit qu'elle diminue un petit peu, mais quand même, elle reste un peu au-dessus, déjà au-dessus de la Chine. Et puis finalement, elle est à partir des années 2007-2008 assez stable. Et puis cette courbe bleue, qui est celle de l'Union européenne, qui elle s'écrase hein, et du coup descend en dessous du niveau de celui des États-Unis et descend au niveau de la Chine. Bon. Gabriel Zucman, lui, il montre que, en fait, il faut comparer ce qui est comparable et donc réintroduire plusieurs choses qui sont le coût de la vie, tout simplement, qui a plus augmenté aux États-Unis que dans l'Union européenne. Et donc, si on prend en compte, si on remet le chiffre du PIB en lien avec le coût de la vie dans les différents blocs économiques, bah, du coup, on a des courbes qui sont celles-ci. Alors, la Chine est toujours en croissance économique, c'est sûr, mais là, la courbe bleue Union européenne et la courbe jaune des États-Unis est équivalente. Donc, ce mythe selon lequel nous n'aurions pas une croissance identique, elle est un peu faussée par le fait qu'on ne compare pas la même chose et que surtout on ne réintègre pas la question de l'augmentation du coût de la vie. Et puis le deuxième mythe qui fait parfois douter hein, justement de notre souveraineté économique européenne et de notre capacité en tout cas, à jouer à jeu égal avec les États-Unis, c'est le mythe selon lequel l'Europe serait improductive. Ça, on entend souvent ça. De toute façon, on a un problème de productivité, on ne produit pas assez dans l'Union européenne. Donc, encore une fois, hein, je m'appuie sur les travaux de cet économiste, n'étant pas moi-même économiste. Lui, il montre très bien que, certes, si on prend des chiffres bruts, le PIB par heure travaillée, c'est-à-dire si un Européen travaille une heure, combien de richesses il produit, et si un Américain travaille une heure, combien de richesses il produit. Donc le PIB par heure travaillée, c'est 81,8 dollars aux États-Unis contre 71 dollars dans l'Union européenne, si on prend en compte les 27 États. Donc là, on se dit, ah oui, en effet, bon, il y a 10 euros qui se sont perdus. Donc en fait, les Européens ont produit moins de richesses quand on travaille la même durée. Donc ça, c'est une première interrogation. Mais déjà, ça change un tout petit peu la donne si on prend en compte non pas les chiffres de l'UE 27, parce qu'il y a des États qui ont rejoint l'Union européenne finalement assez récemment et qui n'ont pas le même, qui n'ont pas encore atteint le niveau de vie et de productivité. Et c'est bien normal parce que tout simplement, ils ont en tout cas un délai de rattrapage. Donc si on prend l'Union, ce qu'on pourrait appeler l'Europe occidentale, avec toutes les limites, hein, forcément c'est un peu schématique, mais en gros les États fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays du Benelux et l'Espagne, bah là c'est équivalent aux États-Unis, c'est même un peu plus élevé, puisque c'est 83 dollars donc de production de richesse par heure travaillée. Donc déjà, le fait de prendre en compte le chiffre UE 27, c'est un peu biaisé du fait qu'on a des pays qui sont en train de rattraper, en effet, parce qu'ils ont intégré l'Union européenne en 2004 et en 2007, pour les adhésions les plus récentes. Et puis surtout, nous, on a des conditions de production qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus égalitaires. On a un temps de travail moindre qu'aux États-Unis, une espérance de vie plus élevée, et surtout, on produit en tout cas, en respectant davantage l'environnement. Ce qui veut dire que le coût. La productivité aux États-Unis, elle est rendue possible par le fait que les entreprises américaines externalisent complètement le coût de l'environnement. C'est pas intégré pour eux, puisque en gros, si je veux schématiser, ils se fichent bien de polluer, puisque ça, c'est assumé par la totalité des citoyens qui prennent ce risque environnemental. Nous, nos entreprises européennes, elles respectent des normes sanitaires, sociales, environnementales plus élevées. Donc bien sûr que ça coûte davantage pour produire tout simplement, et donc bah, ça diminue un tout petit peu la productivité. Mais après, si on réfléchit un peu sur dans quel monde on a envie de vivre, et si on a envie de produire à n'importe quel coût, et notamment à n'importe quel coût environnemental, social, ben, du coup, ça nous permet de relativiser aussi un tout petit peu ces chiffres-là, et de dire que bah, ce n'est pas qu'on est improductif, c'est qu'on produit différemment. Et qu'on produit de manière plus durable pour nos sociétés, pour l'environnement, et puis pour tout simplement une qualité de vie, un bien-être social qu'il est important aussi de prendre en compte. Donc, tout ça pour dire que voilà, les chiffres bruts disent beaucoup de choses et du coup sont souvent instrumentalisés pour appeler à davantage déréglementer, hein, c'est à la mode. On entend que ça, il faut déréguler, déréglementer, arrêter d'avoir des normes qui sont trop, trop compliquées à remplir pour nos entreprises parce que ça freine la compétitivité. En réalité, ce n'est pas tellement le cas. On a des bonnes. En tout cas, on peut se considérer comme étant aussi compétitif que les États-Unis, encore une fois, si on compare les mêmes chiffres. Donc voilà, c'est ce que ma petite conclusion sur ce point-là, hein, qui est que ben, c'est tous ces mythes qui sont instrumentalisés, comme je viens de le dire. Alors bien entendu, il y a quand même des défis. Hein. On ne va pas totalement se voiler la face sur le fait qu'il y a des points sur lesquels certainement il faut un peu faire des efforts. Et donc j'expliquerai ensuite comment l'Union européenne s'attelle à essayer de combler un peu ces lacunes. Bon, le premier point un petit peu de vigilance, on va dire, c'est que l'Union européenne, enfin l'Europe en général, a découvert qu'elle était dépendante par rapport à des biens et des ressources essentielles, hein, dépendante de l'énergie, dépendante aussi de ce qu'on appelle les terres rares, hein, c'est tous les matériaux critiques hein, qui servent à fabriquer les semi-conducteurs, les puces pour les ordinateurs, etc. Et là, la production, elle est quasiment, pas exclusivement, mais très, très majoritairement chinoise. Et donc, bien entendu, là, il y a un point en tout cas d'inquiétude pour l'Union européenne dans sa dépendance aux autres pays, et notamment à la Chine. Il y a aussi un deuxième point de vigilance, c'est un déficit d'innovation et d'investissement en matière de recherche et développement. Là, je n'ai pas eu le temps de prendre un schéma, mais là, c'est clair et net. Les investissements de la puissance publique et des partenaires privés dans l'innovation, dans la recherche et développement est moindre dans l'Union européenne qu'aux États-Unis, surtout dans les secteurs clés hein, que sont l'intelligence artificielle, le numérique au sens large, les ordinateurs quantiques, la robotique, en tout cas tout ce qui va faire, même si c'est pas forcément le lieu de s'en réjouir, mais c'est tout ce qui va faire quand même l'économie de demain. Et donc là, on voit bien qu'on a un petit retard à rattraper. Et puis, bien entendu, mais ça, c'est un défi qui attend tout le monde, et là, on est peut-être plutôt mieux placé que les États-Unis et la Chine, hein, c'est la transition écologique, c'est le fait de pouvoir décarboner notre économie tout en maintenant la croissance et la compétitivité. Et donc, c'est ce à quoi s'attelle l'Europe aussi, depuis son point de vue. Et donc, tout ça, tous ces défis-là, ça a conduit l'Union européenne, là, depuis, on va dire, 2-3 années, en tout cas post-Covid, puisque vraiment, le Covid, ça a été un moment quand même un peu clé où on s'est rendu compte, notamment de nos dépendances. Et à la fois du fait aussi que, on avait des cartes à jouer. Hein, je veux dire, c'est quand même l'Union européenne qui a permis d'acheter aussi des vaccins, des masques, etc. Et donc, le Covid, ça a été un moment quand même un peu clé dans... un peu un sursaut, comment on fait pour faire en sorte d'assurer une forme de souveraineté économique dans l'Union européenne. Et donc, il y a des réflexions qui se sont engagées. Moi, je vais vous parler surtout de deux rapports qui ont été rédigés par des hommes que vous connaissez certainement, des hommes politiques. Enrico Letta, pour le premier, qui était l'ancien Premier ministre italien et qui est actuellement président de l'Institut Jacques Delors, qui s'est vu confier en 2024 par le Conseil européen, donc le Conseil européen, c'est les réunions des chefs d'État et de gouvernement européens, qui s'est vu confier la mission de réaliser un rapport sur le marché unique. En gros, on est en 2024, ce marché unique, il existe depuis plus de 70 ans. Est-ce qu'il faut continuer à le faire évoluer ? Un peu le bilan du marché unique et justement ses progressions. Alors, bon, c'est un rapport qui est forcément très, très volumineux, que je vais résumer en quatre points. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment aller le consulter. Il se trouve de manière très, très simple sur Internet. Finalement, il propose deux choses, Enrico Letta. La première chose, c'est d'élargir le marché unique à des nouveaux domaines qui pour l'instant, sont délaissés ou en tout cas pas suffisamment exploités. Et donc, pour lui, il y a quatre terrains stratégiques. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le marché financier, qui est tout simplement le fait que les Européens épargnent. Je reviendrai un peu là-dessus d'ailleurs, parce que c'est quand même une question très très importante. Les Européens épargnent, mais on se rend compte que cette épargne, elle reste nationale et elle n'est pas affectée à des projets européens, au financement de l'innovation, etc. Donc lui, il dit en fait... Il faut permettre d'affecter l'argent là où il est, hein, l'argent de l'épargne, pour ensuite se fonder sur cette manne financière, pour ensuite financer des investissements, de l'innovation, là où on a besoin. Donc lui, il a réfléchi à partir de ça. Il propose également, pardon, d'élargir le marché unique en matière de télécommunications. Pour l'instant, le marché des télécommunications, assez bizarrement, c'est un marché qui reste très national, avec des opérateurs nationaux. Et donc, pour pouvoir rivaliser hein, avec les géants chinois et américains, en tout cas états-uniens, eh bien, il faudrait finalement qu'on ait des opérateurs qui soient européens. Et donc là, il y a aussi une marge de progression, très certainement. Et puis, bien entendu, en matière d'énergie, hein, on a tous des bouquets énergétiques différents. Là, on pourrait un peu rationaliser les choses. Et bien entendu également en matière de défense, et là on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine que bah, on fabrique tous des avions différents ou en tout cas ou des éléments de défense ou de l'artillerie qui n'est pas interopérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser dans un autre état que celui qui l'a fabriqué. Et donc ça nuit très certainement en effet à nos capacités de défense commune. Donc lui, il plaide vraiment pour ça, pour qu'on essaye d'avancer en matière de défense. Et puis le deuxième point, qui est un point un peu plus on va dire budgétaire, lui, il plaide aussi pour que l'Union européenne finance, elle, donc là on ne parle plus des États, mais que l'Union européenne finance et investisse dans certaines technologies de pointe. Grâce à des investissements pan-européens. J'en reparlerai aussi un petit peu parce que la question est celle de savoir d'où viendrait cet argent. Le budget européen, il n'est pas illimité, hein, c'est 1% du PIB des États, hein, donc ce n'est pas grand-chose. Et donc là, il y a toute une réflexion sur notamment est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas autoriser l'Union européenne à émettre de la dette commune, c'est-à-dire pouvoir emprunter sur les marchés au nom de l'Union européenne pour ensuite aller... tout simplement financer là où on en a besoin. Donc ça, c'est le premier texte qui a un peu invité toute la classe politique à réfléchir en disant « Ok, il y a peut-être des marges de progression dans certains domaines. » Et ça a commencé, en tout cas, à ouvrir la réflexion. Vous notez la date, avril 2004, c'est juste avant l'élection au Parlement européen de juin 2024. Pardon, 2024 et pas 2004. Et puis, il y a eu un autre rapport qui a été... adopté juste après, en tout cas qui a été publié juste après, c'est le rapport Draghi cette fois. Donc Draghi, il est aussi connu, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Et lui, son champ d'action, donc lui, le rapport avait été commandité non pas par le Conseil européen, mais par la Commission européenne, avec un champ d'action un peu plus large, puisqu'il devait réfléchir sur la compétitivité européenne. Et donc, c'est pareil, le rapport Draghi il est encore plus volumineux que le rapport l'État. Et puis, je vais un tout petit peu plus développer parce que c'est ce qui explique, en tout cas, ce rapport Draghi, il a énormément marqué la Commission européenne, qui, comme vous le savez, est dirigée de nouveau par Ursula von der Leyen, qui fait son deuxième mandat. Et donc... toutes les actions qui ont été entreprises là depuis 2024, début 2025, par Ursula von der Leyen, viennent beaucoup, en grande part, de ce rapport Draghi, même si elle en a aussi parfois profité pour réinterpréter un peu à sa sauce le contenu des préconisations qu'il pouvait faire. Je le dirai dans un instant. Donc, ce rapport Draghi fait déjà un diagnostic qui est très, très clair. J'en ai déjà un peu parlé, mais du coup, il y a toute une partie de son rapport qui est fondée sur toute une sorte d'analyse économique. Il dit que l'Union européenne souffre d'un déficit d'innovation structurelle dans les technologies de pointe. 70% des modèles d'intelligence artificielle sont développés aux États-Unis contre le reste de la planète. Donc là, on le sait, hein, que tous les modèles qu'on vous propose, c'est la Silicon Valley... et que nous, on a quelques opérateurs, quelques start-up, hein, mais ça n'a rien à voir par rapport à Meta, OpenAI, etc. Deuxième chose, on le sait aussi, pénurie de compétences en Europe du fait cumulé du vieillissement démographique, de notre population et puis d'une fuite des cerveaux qui est aussi due tout simplement à l'écosystème de la recherche qu'on propose en Europe. Une augmentation de l'énergie, une dépendance pour les matériaux critiques, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, il revient aussi sur le fait que dans des secteurs clés, On a une fragmentation des compétences, en quelque sorte, fragmentation nationale, un manque de coordination, hein, le secteur de la défense, en matière de transport, en matière spatiale. Et tout ça nous freine, tout simplement parce que les États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. C'est un seul État. Et donc, les règles s'appliquent partout et il n'y a pas de normes différentes. Forcément, l'État du Wisconsin ne produit pas en tout cas je sais pas, de l'armement ou des drones avec des normes de production différentes de l'État du Dakota. Donc, dans l'Union européenne, forcément, ce n'est pas un État. L'Union européenne n'est pas un État fédéral. On a des logiques nationales et des politiques industrielles nationales qui sont encore très fortes. Et bien entendu, ça fait aussi des obstacles. Lui, il fait plusieurs recommandations ou préconisations, des préconisations assez générales et puis d'autres qui sont un petit peu plus ciblées. Parmi ces préconisations générales, hein, lui, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut investir massivement pour combler l'écart technologique. Donc, mettre de l'argent dans les start-up, dans les entreprises qui vont produire avec des technologies low carbone, etc. Et il chiffre à 800 milliards d'euros d'investissement annuel les besoins pour réussir ce qu'on appelle la double transition, la transition digitale, numérique, IA, robotique, ordinateur quantique, et puis la transition environnementale. Alors, c'est là que se pose la question, puisqu'il faudrait. Soit que les États augmentent leur contribution au budget européen, puisque pour l'instant, les 800 milliards, ils n'existent pas. En tout cas, le budget européen sert déjà à financer les actions européennes existantes. Lui, il dit qu'il y a besoin de 800 milliards de plus que le budget européen actuel. Donc, soit les États acceptent d'augmenter, ce qui, a priori, n'est pas dans les tuyaux, comme on dit. Soit, eh bien, il faudrait que l'Union européenne puisse emprunter sur les marchés financiers, ce qu'elle pourrait faire en plus avec des taux beaucoup moins importants que si ce sont les États qui empruntent, puisque la solvabilité de l'Union européenne est quand même en tout cas, assez solide. Les investisseurs ont confiance dans l'Union européenne et donc elle pourrait emprunter à des taux moindres, en tout cas comparables aux États qui sont très très solvables. Mais pour ça, voilà, il faudrait qu'il y ait des déblocages, hein, notamment les Allemands sont assez opposés, et puis les Pays-Bas également. Enfin, en tout cas, il y a certains États qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une dette commune européenne. Bien entendu, au titre des préconisations générales, il faudrait adapter l'offre de formation, la recherche-développement. Et puis, également aussi, ça c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, je peux développer un tout petit peu, puis on reviendra là-dessus si besoin. C'est la question de la politique de concurrence qu'il faudrait réformer. Là, je fais un tout petit point. Je vais essayer de pas trop être technique, hein, de ne pas être trop technique. Dans l'Union européenne, pendant très longtemps, la politique de concurrence était assez stricte. C'est-à-dire que les États n'avaient pas le droit d'aider leurs entreprises, en tout cas, sauf dérogation extrêmement proportionnée, ciblée. Mais le principe, c'était celui-ci. Les États n'aident pas leurs entreprises. Pourquoi? On voit bien, c'est que si la France se met à aider, je ne sais pas moi, Air France ou la SNCF, du coup, il va y avoir des problèmes de concurrence avec des États qui ne peuvent pas aider leurs entreprises. Et donc, l'idée, c'était d'égaliser les conditions de concurrence et donc de dire personne n'aide ces entreprises et puis on verra bien celles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Bien entendu, dans la circonstance actuelle, il faudrait certainement revoir ça, c'est-à-dire permettre aux États d'aider certaines de leurs entreprises, notamment celles pour lesquelles on a besoin d'innovation. On a besoin d'entreprises fortes. En tout cas, le constat qui est souvent fait, c'est qu'il y a certaines entreprises qui auraient besoin de financement au départ pour pouvoir exister, pour pouvoir se développer, mais c'est la politique de concurrence de l'Union européenne qui les freine. Donc ça, c'est un point important et qui va certainement, qui a certainement trouvé écho auprès de la Commission européenne, qui réfléchit un peu à cette question. Et puis, on retrouve quand même, et c'est là que je disais que la Commission européenne a un peu a fait sa sauce à partir de ce rapport Draghi. Draghi dit qu'il faut un peu simplifier la législation européenne, hein. Il y a beaucoup trop beaucoup trop de législation. Et donc, les entreprises passent beaucoup trop de temps à essayer de se mettre aux normes. Voilà, il faut peut-être un peu de simplification. C'est là où la Commission européenne, elle a vu une opportunité pour déréglementer, déréguler. J'en parlerai dans un instant. À côté de ces préconisations générales, le rapport Draghi fait également des recommandations ciblées. Peut-être je ne vais pas développer trop, mais en matière d'énergie, en effet, on voit tous qu'on a un problème avec les fournisseurs de gaz. Et donc, il faut certainement diversifier nos sources d'approvisionnement. Bien sûr, soutien à l'innovation, à la décarbonation. On retrouve ce focus sur les télécommunications en disant il faut peut-être élargir dans le secteur des télécommunications. Et puis également, commencer à réfléchir à une véritable politique industrielle, de développer des sortes de champions européens. Alors ça aussi, c'est complètement à l'encontre de la politique de concurrence. L'Union européenne était plutôt de dire, on ne développe pas des champions, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si une entreprise réussit, très bien, mais on va pas subventionner des entreprises. Bon, quand on voit que les États-Unis le font, les Chinois aussi, peut-être qu'il faut se mettre à raisonner aussi avec une véritable politique industrielle à l'échelle européenne, subventionner des entreprises européennes pour qu'elles gagnent des parts de marché et qu'elles soient capables tout simplement de résister et de faire jeu égal avec les entreprises américaines. Donc bien sûr, des financements supplémentaires, une réforme de la politique de concurrence, parce que pour l'instant, c'est pas tellement en lien avec ce qui est possible dans les règles européennes. Et puis, ça va aussi un peu dans ce sens, à une vraie politique industrielle à l'échelle européenne en matière de défense, d'industrie automobile, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour développer telle industrie et où est-ce qu'on la développe et ne pas laisser les États réfléchir, parce que pour l'instant, c'est un champ de réflexion qui est laissé à la disposition des États. Donc voilà pour les recommandations ciblées et j'en arrive maintenant à ce qu'en a fait la Commission européenne avec un texte très important qui a été publié par Ursula von der Leyen juste après qu'elle a été nommée, donc en janvier 2025, elle a été reconduite dans son mandat en septembre 2024. Et donc elle a énoncé ce texte, alors on a toujours ce petit vocabulaire européen, c'est la boussole pour la compétitivité. C'est ce qui va nous donner le cap à suivre, le cadre stratégique pour les 5 prochaines années. Et vous savez que le commissaire français, en tout cas le membre français de la Commission européenne, c'est M. Stéphane Séjourné, qui lui est en charge de la politique industrielle. Et donc ça a été fait en collaboration très étroite entre Stéphane Séjourné et Ursula von der Leyen, avec un principe simple, dans les 5 prochaines années, il faut que chaque centime d'euro qui soit dépensé le soit pour accroître la compétitivité européenne et sa souveraineté économique ou son autonomie stratégique, puisque c'est souvent aussi le terme qui est utilisé. Et donc, il y a 3 grands axes, simplification, innovation et puis sécurité et notamment énergétique. Donc je développe un tout petit peu, et c'est là que je vais être un peu critique. Le premier axe, Ursula von der Leyen l'a dit et le redit, il faut faire un choc de simplification. Ça veut dire alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Alors, c'était déjà dans les 2 rapports que j'ai cités, le rapport Draghi, le rapport Letta. Et la Commission européenne a dit, très bien, vous avez raison, il faut un peu alléger toutes les contraintes qui pèsent sur les entreprises. Et elle a proposé, du coup là c'est un terme un peu technique, mais je vais essayer d'expliquer, elle a proposé ce qu'on appelle des omnibus, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans la presse, la Commission européenne propose un omnibus, elle en a proposé plusieurs. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement un texte qui vient modifier plein de textes, d'où le terme omnibus, ça touche à tout, c'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est par une loi européenne revenir sur plein de lois qui ont déjà été adoptées. Un instrument juridique qui permet justement de modifier des lois existantes, si on veut dire. Et donc, elle a proposé plusieurs omnibus en matière environnementale, en matière de devoir de vigilance des entreprises, en matière numérique. Et sous couvert, quand on regarde un peu ces textes, sous couvert de juste simplifier, c'est-à-dire alléger les contraintes administratives, en réalité, c'est des véritables reculs en arrière. de la Commission européenne parce qu'elle est sous pression des Américains. Je pense que vous avez vu hein, ce qui s'est passé. La Commission européenne a sanctionné X, anciennement Twitter, en décembre 2025 parce qu'il ne respectait pas nos règles dans l'Union européenne. Trump a répondu par quoi ? En interdisant 5 personnalités européennes de séjourner aux États-Unis. Donc, en gros, c'est le discours de Trump. Vous embêtez nos entreprises avec toutes vos régulations, notamment en matière numérique, mais aussi en matière environnementale. Nos entreprises américaines sont embêtées. Donc, en fait, ben, soit vous dérégulez, soit vous déréglementez, soit ben, ça va être la guerre commerciale. Et donc, là, la Commission européenne, on peut un peu critiquer son action dans le sens où elle a en effet un peu donné gain de cause aux Américains. Alors, bien sûr, elle n'est pas soumise que au lobbying des Américains, mais aussi des entreprises européennes, dont certaines sont aussi bien contentes hein, de voir leurs contraintes allégées. Mais du coup, ça pose la question de savoir si le modèle dans lequel on est content de vivre, hein, dans le modèle dans lequel on essaye de protéger notre environnement, de protéger notre modèle social, ben, du coup, est-ce que ce n'est pas en train d'être un petit peu déconstruit par la Commission européenne ? Et donc là, il y a un texte, notamment, qui dispense les entreprises, donc, toutes les entreprises, mais aussi les entreprises européennes, de plusieurs obligations qu'elles avaient, de regarder si leurs fournisseurs, notamment en amont, mais aussi voilà, toute leur chaîne de valeur, respectent bien hein, des contraintes sociales, environnementales, les droits humains. L'idée, c'était de vérifier que Zara ne fait pas fabriquer ses habits en Chine par des enfants de moins de 6 ans. Voilà, moi, il me semble que c'était une bonne idée. Le fait de revenir sur ses obligations, ben, c'est quand même un peu problématique. Surtout que ce texte, là, dont je suis en train de vous parler, a été adopté pour la première fois dans l'Union européenne par une majorité qui va de la droite à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'Union européenne que ce fameux cordon sanitaire... Hein, cordon sanitaire, c'est cette convention selon laquelle on ne vote pas avec l'extrême droite, ben, ce cordon sanitaire a été rompu en novembre dernier parce qu'on a beaucoup de partis d'extrême droite au Parlement européen et qu'ils ont été capables de s'allier avec les partis de droite traditionnels, ce qui n'était jamais arrivé par avant. Donc voilà, ça c'est mon petit moment quand même critique, hein, puisque bien sûr, tout n'est pas rose dans cette Union européenne. Et puis, ça je vais peut-être pas en parler parce que du coup c'est un peu technique, je passe à la stimulation de l'innovation dont j'ai déjà un peu parlé, hein, mais du coup j'ai juste des chiffres. Si on additionne l'épargne des Européens, c'est 1400 milliards d'euros contre 800 milliards d'euros aux États-Unis. Et pour autant, les fonds de pension américains, je pense que tout le monde a entendu parler des fonds de pension américains, puisque c'est ce qui souvent, en tout cas, l'épargne des Américains se greffe souvent sur ces fonds de pension, en tout cas, utilise souvent ce vecteur-là. Ben, eux, ils ont une force de frappe incroyable. Ils sont capables de subventionner des entreprises, d'investir massivement, alors aussi parfois avec des inconvénients hein, qui sont qu'ils peuvent aussi retirer leur financement et laisser l'entreprise un peu... justement sans ressources. Mais c'est sûr que si on arrivait dans l'Union européenne à capter cette capacité de financement de nos épargnants, ben là, on pourrait vraiment investir ben, pour rattraper notamment un retard technologique qu'on peut avoir dans certains secteurs. Et donc, c'est tous les projets dont j'ai déjà parlé, hein, d'union de l'épargne, des investissements, pour pouvoir investir. Et puis, le dernier point, donc le dernier... focus de la Commission européenne dans ce document stratégique dont j'ai parlé, c'est bien entendu à la fois décarboner nos sources d'énergie pour aller dans le sens de la transition écologique et à la fois sécuriser nos sources d'approvisionnement puisque les deux vont ensemble en quelque sorte. Donc il y a plusieurs plans qui sont en discussion hein, pour à la fois une énergie plus abordable mais aussi pour une industrie propre. Et puis une sécurisation des approvisionnements, hein, faire en sorte qu'on puisse eh bien, tout simplement avoir des sources d'énergie plus pérennes. Donc voilà pour la présentation assez rapide. Hein. Bien sûr, ce sont des sujets complexes. J'aurais pu revenir beaucoup plus en arrière. J'ai choisi un peu de me focaliser sur ce dont on discutait à l'heure actuelle. Et puis voilà, essayer de donner une image... un peu de nos atouts en tant qu'Européens, de dire que la souveraineté économique, on n'a déjà pas à rougir de la puissance du bloc économique européen, même si c'est sûr qu'il y a encore des progrès à faire, en tout cas pour vraiment pouvoir jouer à jeu égal avec les États-Unis. Et c'est là où j'en arrive à ma petite conclusion, et je vais encore, avant de vous laisser la parole et aux questions, développer un petit peu pourquoi c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur notre autonomie, souveraineté. On peut utiliser peut-être les deux termes. Je vais directement ici. Hein. Quand je parlais du fait qu'on est des végétariens dans un monde de carnivores, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle s'est construite sur un récit ou un narratif, terme à la mode, selon lequel on est dans un monde multilatéral, dans lequel on coopère, on respecte les règles qu'on se donne, notamment les règles de droit international, et que ce monde, il repose sur une forme de croissance économique qui va être infinie, et puis ce qui va avec la démocratie libérale. Ça veut dire que tout ça est censé aller ensemble. Croissance économique, progrès politique, progrès libéral, et puis du coup, toutes les nations qui vont coopérer ensemble pour rendre le monde meilleur. Bon, on voit bien que là, ce mythe est en train vraiment de s'effondrer, et que l'Union européenne doit repenser les conditions, pour le coup, de son autonomie et du fait que les autres puissances impériales, puisqu'on peut parler vraiment de véritable impérialisme, russe, chinois et maintenant états-unien, eh bien, eux ne respectent plus du tout les règles qu'on se donne. Et donc, il va falloir repenser tout ça. Et donc, je termine avec un document qui est vraiment, je pense, qu'il faut lire. C'est la stratégie nationale de sécurité de Donald Trump, qui est un texte qui a été publié en décembre 2025 et qui annonce sa vision du monde. En tout cas, la vision du monde de Donald Trump. Qui fait froid dans le dos parce qu'en plus, concrètement, l'opération au Venezuela montre bien que ce ne sont pas que des mots et qu'il a il a véritablement l'intention de mettre en pratique tout ce qui se trouve dans ce document qu'il faut donc, à mon avis, vraiment consulter et lire, ou en tout cas, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur cette question. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Du coup, j'essaie de vous résumer un peu... ce qu'on trouve dans ce document. Premièrement, bien sûr, tout au long du document, c'est une influence forte de ce qu'on appelle l'idéologie MAGA. MAGA, c'est Make America Great Again, rendre l'Amérique plus forte encore, plus grande encore, restaurer la puissance du peuple américain. Et donc ça, c'est l'unique focus de Donald Trump, c'est que sur le plan interne comme sur le plan externe, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est l'intérêt du peuple américain. Tel qu'interprété par Donald Trump, bien entendu. On voit aussi derrière cet argument un argument qui aussi nous oblige à repenser notre vision des relations internationales. C'est la centralité des États-nations. La seule chose qui compte, ce sont les États-nations. Et tout ce qui est au-delà de l'État-nation doit être subordonné à la nation et à l'État. Ça veut dire que, OK, on peut respecter les règles de droit international, mais si ça va dans le sens de l'intérêt de mon État, mais si ça ne va pas dans le sens de mon intérêt étatique, dans ce cas, je ne respecte pas les règles internationales. Et puis, derrière cette centralité des États-nations, il y a aussi tout un discours sur une sorte de hiérarchie naturelle entre les États-nations. Et Trump, il est très clair avec ça. Il y a des États forts, il y a des États faibles. Et donc, c'est les forts qui doivent régir le monde. Et ça se fait comme ça. Et donc, il y a cette idéologie aussi du fait que la force doit surpasser le droit, alors que c'est un peu nous, tout ce qu'on fait à l'inverse dans l'Union européenne, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on croit fortement au fait que le fort ne peut pas surpasser le droit et que le droit doit arrêter le fort, et que c'est pour ça que le droit existe. Et donc, il décline cette idée, ces idées un peu phares, sur le plan externe et sur le plan interne. Sur le plan externe, lui, bien sûr, son but, c'est, un, d'assurer la paix, en tout cas la sécurité du peuple américain, par la force. Donc, tout ce qui permet de faire en sorte d'avoir des voisins acceptables, comme il a dit, puisque c'est son argument pour dire, pourquoi j'interviens au Venezuela, c'est parce que j'ai envie d'avoir des voisins qui me font pas peur et qui vont pas m'embêter. Donc assurer la sécurité par la force. Il considère aussi le monde des ressources à exploiter, en disant, bah, en fait, voilà, ce qu'on appelle l'environnement, c'est juste un gigantesque bac de ressources. Et donc, c'est aux nations les plus fortes de les exploiter, à nos entreprises américaines d'aller se servir, et puis de faire en sorte que tous ceux qui nous empêchent de le faire, eh bien, soient dissuadés de nous empêcher. Et puis, bien entendu, c'est un rejet du multilatéralisme. Vous avez compris que là, il est plus question de coopérer avec d'autres États sur un pied d'égalité, puisqu'il n'y a pas d'égalité pour lui. Et donc, c'est au plus fort, encore une fois, d'imposer sa vision des choses. Sur le plan interne, concrètement, sa doctrine, c'est ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire le fait que, un, c'est la majorité qui décide, et que si la majorité n'est pas d'accord avec la minorité, ben tant pis. Et donc, on peut très bien revenir sur les droits. Alors bien sûr, les minorités, hein, elles sont très très. En tout cas, il y a plein de minorités. Hein. Ça peut être les migrants, ça peut être les femmes, ça peut être bien entendu les personnes LGBT. Donc, l'illibéralisme, c'est ça. C'est cette croyance dans le fait que la seule voie légitime, c'est la voix de la majorité qui a élu Donald Trump, et donc que la minorité on peut ne pas respecter les droits de la minorité. Encore une fois, dans l'Union européenne, c'est l'inverse. On considère que la démocratie, c'est certes le règne de la majorité, mais tant que la majorité respecte les droits des minorités. C'est-à-dire que le droit, encore une fois, fait obstacle, heureusement. C'est pas parce qu'on est majoritaire sur un plan numérique qu'on peut imposer ce qu'on souhaite à des personnes qui ne... En tout cas, il faut prendre en compte les droits des minorités. Bien entendu, ce qu'il y a derrière, hein, c'est une vision très homogène du corps social. Il faut absolument qu'on ait le corps social le plus homogène possible. Il faut protéger les valeurs traditionnelles et puis rejeter ce qu'il appelle les pratiques DEI, Diversity, Equity, Inclusion, tout ce qui concerne en effet les personnes faisant partie des minorités. Et puis, sécurité industrielle, énergétique, économique des États-Unis, hein, c'est le focus principal. On a un petit paragraphe en tant qu'Européen dans sa stratégie nationale, Trump et l'Europe. Alors là, c'est aussi très intéressant. Donc, ce que dit Trump, il dit, de toute façon, c'est simple. L'Europe, il daigne s'intéresser à l'Europe dans son discours, mais en disant, en fait, c'est devenu une troisième zone. L'Europe, c'est une zone en déclin civilisationnel, c'est un effondrement civilisationnel. Pourquoi, selon lui, hein, le diagnostic qu'il formule, c'est un, il y a trop de migration en Europe, donc justement toute sa vision hein, de la société, du corps social homogène, nous ça ne marche pas puisqu'on a trop de migrants chez nous et trop de personnes étrangères. Et puis aussi le fait que les Européens se seraient totalement fourvoyés en construisant l'Union européenne notamment et en renonçant à une partie de leur souveraineté nationale pour faire des choses ensemble. Il dit mais c'est un non-sens, il faut que les États-nations y redeviennent des États-nations qui ferment leurs frontières et qui s'occupent de leur intérêt national. Les Européens ils font tout l'inverse et donc c'est ce qui a provoqué leur chute et c'est ce qui va provoquer leur effondrement. Donc, une zone en déclin, et ils concèdent que quand même c'est un marché à conquérir. OK, il y a quand même 450 millions de consommateurs, donc si on peut en tirer quelque chose, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce ne sont plus nos alliés. Ça, clairement, il n'est plus question de faire alliance, mais on est vraiment dans une forme de chantage et de considération des Européens comme dans une vision très, très instrumentale. L'Union européenne, donc, les Européens ne sont plus des alliés, mais aussi une cible idéologique, justement, tout ce qu'incarne l'Union européenne, un modèle social, un modèle environnemental, le respect du droit, le respect des droits des minorités, ça, pour lui, c'est tout ce qui doit disparaître. Et donc, il est clairement, hein, ça, j'ai mis des petits guillemets, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la stratégie de Trump. Il dit qu'il faut, un, cultiver au sein des nations européennes la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe et pour cela, soutenir les partis patriotiques européens. Vous avez compris que derrière patriotique, hein, c'est l'extrême droite. Et donc, il y a un soutien clair hein, de Trump au Rassemblement national en France, au parti de Viktor Orban en Hongrie. Et je ne vais pas multiplier tous les exemples, on les connaît bien. Et puis, hein, plus généralement, quand il y a un soutien des États-Unis à l'Europe, c'est un soutien qui est monnayé, qui est conditionné par une forme d'allégeance, en tout cas qu'il considère comme étant due. Hein, dans son document, il dit aussi, les Européens, ça fait 80 ans qu'on paye pour eux pour assurer la sécurité de leur continent. Déjà, ça va s'arrêter. C'est à eux de prendre en charge leurs dépenses de sécurité. Et puis deuxièmement, il faut un effet retour. Hein. C'est pour ça qu'on augmente les droits de douane et c'est pour ça qu'on va exiger d'eux qu'ils payent pour ce qui a été, octroyé par les États-Unis dans son récit. Et puis, bien sûr, hein, on le voit aussi, hein, clairement, l'Ukraine est devenue un levier de chantage et ça transparaît également dans ce discours. Mais Trump a très bien vu que l'Ukraine est une priorité politique pour les Européens. Et du coup, il instrumentalise, hein, l'Ukraine pour, dès qu'il peut, faire pression sur les Européens en disant, ah, vous voulez pas ça? Ah, ok, ben dans ce cas, je retire complètement mon soutien à l'Ukraine ou etc. Ou je supprime l'accès aux renseignements, etc. Et donc, ben voilà, j'ai mis après le Venezuela. On va ouvrir les questions. Bien sûr, après le Venezuela, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Trump annonce, hein, qu'il veut annexer le Groenland. Et là, ça va être une véritable cible, hein, en tout cas, pardon, pas cible, mais cible, si, mais aussi un test, pour l'Union européenne, qui a pris conscience du fait qu'en effet, Trump, en tout cas, agit et dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Et que, en effet, cette question de l'annexion du Groenland, qu'on considérait comme étant un peu un acte un peu de bluff, où, en fait, très certainement, il va le faire. Et il l'a redit, hein, et juste après les événements de Venezuela, il a dit, je vous reparlerai du Groenland dans 2 mois, et puis finalement dans 20 jours. Et donc là, les Groenlandais sont très très inquiets, bien entendu. Hein, et ça va être un test. Que vont faire les Européens? Est-ce qu'ils vont résister à Trump ou pas? Voilà, c'est la question que se pose. Et je pense que, en effet, Jean-Siane annonçait une conférence sur l'OTAN en mars. Je pense que ça va être aussi un questionnement qui va, en tout cas, qui va être au cœur de l'actualité dans les semaines et les mois à venir. Voilà, j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai parlé un vite et puis de ces sujets que j'espère pas trop techniques. En tout cas, je réponds à vos questions avec plaisir.
Alors, on a l'habitude de vous proposer de prendre 3 minutes pour discuter avec vos petits voisins, là, ce qui permet en général de tester sa question, mais ce que je vous propose, c'est que ce soit juste 2 minutes, parce que vous n'êtes pas trop, trop, trop nombreux. Mais si vous avez le temps pour juste un peu discuter et vérifier, voire tester vos questions, vous avez 2 minutes et je vous prends vos questions. D'accord, très bien. J'ai pas compris.
J'ai pris quelques notes, mais ça va être un peu rapide.
Très bien.
C'est un peu synthèse. Voilà.
Alors,
j'ai bien noté, ça sera en 2 minutes, j'ai fini de lire mes notes.
D'accord, mais vous voulez faire une synthèse ou poser une
non,
question?
Non, il y a deux, trois trucs, et puis il y a deux, trois questions à la fin. Mais c'est rapide, hein, c'est pas comme les
Parce qu'on ne
députés
demande
quand
pas
ils
une test-tête.
parlent. Oui, c'est pas comme les députés quand ils parlent 5 minutes avant de poser la question.
Vous montrez ce que vous avez.
Alors, c'est ça, donc j'ai connu l'Europe quand j'étais jeune, on m'a parlé de l'Europe de la paix, on m'a parlé, puis bon, maintenant c'est devenu un peu l'Europe de la magouille, et puis il y a de plus en plus de citoyens qui ne veulent plus. Hein, puis, bon, il y a une Europe qui me fait vomir, c'est l'Europe du sport. Hein, j'ai été agent de sécurité au Parc Coel, donc.
D'accord.
Je vous dis, il y a le micro, on s'appelle.
Alors,
je vais
prendre.
Minutes, fini,
je vous prends au mot, 2 minutes.
2 minutes.
Okay. Alors, est-ce que vous vous sentez bon ? L'habitude qu'on a, c'est de poser deux questions en même temps, de prendre deux questions. Et ce que je vous demande, c'est d'essayer de... Il nous reste une demi-heure. D'être très concis dans vos questions, parce que ce qui compte surtout, c'est la réponse. Enfin, on peut travailler la concision de sa question. On n'est pas là pour avoir un résumé de ce que vous avez compris. Et parce que ça peut être intéressant que vous le partagiez aux gens que vous allez voir et à leur proposer d'aller en mars de l'autre côté du pont. Et je vous dirai ici en février, enfin, toutes les cycles de conférences dont on parlera. Mais voilà, donc faites un effort de synthèse. Monsieur m'a garanti que ça durait 2 minutes. Donc je vais le chronométrer et on lance le débat.
Alors, Jean-Luc Benoît, je suis né en 1971. Il y a fort longtemps, j'ai été conseiller national avec l'UDF derrière Monsieur François Bayrou. Donc j'ai forcément cru en l'Europe de la paix, ce qu'on m'a vendu dans mon enfance. J'ai eu beaucoup de doutes sur le marché commun, puis la fameuse CEE, donc c'était mes années collège. Bon, j'ai entendu parler d'Erasmus et plein de choses que malheureusement, moi, je n'ai pas vécues. J'ai entendu plein de fois l'Europe de ci, l'Europe de ça, donc je ne mets rien justement pour gagner du temps, parce qu'il y a moult Europe, hein, dont vous avez évoqué, bah, entre autres, l'Europe de la défense. Et puis moi, ce que j'aimerais, bah, c'est l'Europe de la culture, ça j'en ai entendu plein de fois, mais ça aussi, ce n'est pas du tout fait en Europe. Donc j'ai été agent de sécurité au Parc OL, donc je peux vous dire que l'Europe du sport, ça me fait vomir, y compris quand j'entends M. Jean-Michel Aulas, voilà, petite parenthèse pour les Lyonnais. Et puis voilà, donc ça c'est dit. Donc on arrive aux questions, donc comment aujourd'hui croire encore en Europe, et puis croire à une Europe démocratique, parce que c'est quand même devenu depuis quelques années l'Europe de la magouille et des copains et tout et tout. Il y a ensuite, bon là c'est moi qui suis peut-être rêveur, mais si vous connaissez un peu l'espéranto, et si vous avez suivi, plusieurs fois l'espéranto a failli être adopté, c'est les députés français qui ont fait capoter. Donc, est-ce que pour vous, dans les prochaines années, ça serait envisageable que l'espéranto soit au moins adopté au Parlement européen comme outil d'échange, ce qui aurait beaucoup d'avantages, selon moi. Je préfère arrêter là.
Je vous félicite. 1 minute 20. En général, je suis assez précautionneuse.
Je connais les députés à l'Assemblée nationale.
Voilà. Est-ce que, comme il y a eu plusieurs questions, j'en pose une dernière et ça, comme ça, tu réponds à la totale.
Bonsoir, merci pour cette vue d'avion de la position de l'Europe dans la situation actuelle. Concernant le Mercosur, une information qui est parue ce soir, là, il y a à peu près une heure, Emmanuel Macron votera contre le Mercosur. Je pense que la France n'est pas la seule à voter contre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Et du coup, quand même, votre toute première question, monsieur, c'était est-ce que l'Europe démocratique, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on peut penser de l'Europe démocratique ? Du coup, votre question sur l'espéranto m'a fait oublier la première, je suis désolée.
Il y avait l'Europe culturelle et le manque de confiance que les citoyens ont dans l'Europe maintenant, avec une impression de magouille, de hors-sol et de non-représentativité, quelque part.
C'est ça ? Ok, voilà. Ok, très bien, merci. Donc, oui, non, bah, toutes des questions. J'ai la difficile mission d'être à la fois critique sur l'Europe, enfin, d'être critique sur l'Europe, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut être critique, hein, sur l'Union européenne, et à la fois d'être, je crois, vraiment une défenseuse de cette idée qui a permis, qui nous a garanti pour l'instant la paix sur le continent européen pendant une période qu'on n'avait jamais connue. Et ça, je pense que c'est l'acquis principal, et c'est quelque chose de très cher, forcément. Moi, j'ai bien entendu pas connu la guerre, mais j'ai des grands-parents qui ont connu la guerre et qui me racontaient ce que c'était pour eux les Allemands. Grands-parents, hein, qui détestaient les Allemands. Et bien sûr que dans notre génération, ça n'existe plus. En tout cas, je pense qu'on n'a pas cette haine viscérale de l'autre, de notre voisin, parce que ça fait 70 ans qu'on construit ensemble quelque chose qui nous dépasse. Moi, je trouve que cette idée, que c'est une idée belle, que c'est une idée nécessaire, que c'est une idée encore plus nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Alors peut-être que c'est trop idéaliste, Mais moi, je ne crois pas au repli sur soi, je ne crois pas à l'État-nation. Mais du coup, c'est quelque chose, c'est un projet qui est exigeant. C'est un projet qui exige des compromis tout le temps, qui exige des réglages, parce que bien sûr, on reviendra sur le Mercosur d'ailleurs, hein, sur cette question, bien sûr qu'on n'a pas les mêmes intérêts, et construire ensemble, c'est comme avec un groupe d'amis dans lequel on veut aller faire une rando, il y en a un qui a envie de faire une rando de 2 heures, l'autre qui a envie de faire une rando de 16 heures, on fait comment ? On n'a pas les mêmes capacités, pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies, pas les mêmes envies de rythme. Donc tout ça, oui, c'est une chose complexe, mais moi je crois que pour moi ça n'annihile pas le projet européen. Tous les inconvénients, les problématiques qu'il y a, et vraiment il y en a, et moi je le dis souvent à mes étudiants, d'ailleurs à telle sorte qu'un jour un de mes étudiants est venu me voir, c'était il n'y a pas très longtemps, il me dit: en fait, moi, ça me donne envie de... ça m'a assez fait bizarre qu'il me dise ça. Il me dit, moi, ça me donne envie de voter pour les partis eurosceptiques. Je lui dis, alors, c'était vraiment pas le but. Mais oui, bien sûr qu'on peut être critique sur plein de trucs, bien sûr. Mais être critique, il y a aussi ce qu'on appelle la critique constructive, c'est-à-dire montrer les points où ça ne va pas, et puis après, changer les choses. Alors, du coup, j'en viens quand même à votre question sur l'Europe démocratique. Bon... quand vous dites l'Europe, c'est magouille et ses copains, bon, pas plus qu'à l'échelle des États. On peut se mettre d'accord sur le fait que les élites politiques, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient nationales, oui, ont une tendance, en effet, à abuser de leur position, à être dans une forme d'usure du pouvoir. Et donc, il faut des contre-pouvoirs pour ça. Maintenant, est-ce que l'Union européenne n'est pas démocratique ? Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un Parlement européen qui est élu. Après, c'est la manière dont on habite cette démocratie, dont on la fait vivre. En effet, les débats, quand on vote au Parlement européen pour les députés au Parlement européen, ça reste des débats très nationaux parce qu'il faudrait faire vivre cette démocratie, il faudrait des médias européens, il faudrait que quand on regarde les infos, on ait des infos sur ce qui se passe dans d'autres pays, mais ce qui se passe aussi dans les autres pays. Et voilà, ça passe par ça, il faut qu'il y ait plus de mobilité. Une fois que tous les jeunes seront partis... faire Erasmus pendant un an, bien entendu, ça nourrit aussi cette attention à ce qui se passe ailleurs et cette empathie du coup à l'échelle sociétale, quoi. C'est comment je m'imagine à la place des autres, comment je construis ensemble. Et oui, ça, c'est complexe. Et après, il y a quand même autre chose aussi. Du coup, ça fera lien avec le Mercosur, mais j'en reparlerai. Il y a aussi cette fâcheuse tendance qu'ont nos hommes politiques à imputer à l'Union européenne tout ce qu'ils ne souhaitent pas assumer. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Et ça, c'est le jeu de tout... alors, pas tellement... pour des questions institutionnelles, ils ne le font pas tellement en Allemagne. Mais alors, en France, on a ce discours-là tout le temps. C'est Bruxelles qui ? C'est de la faute à Bruxelles ? C'est l'Union européenne qui nous impose ça ? Enfin, c'est qui, l'Union européenne ? L'Union européenne, c'est nos chefs d'État, c'est nos ministres qui fabriquent de la décision. Et donc, le problème, c'est qu'ils n'assument pas la position qu'ils adoptent. Et d'ailleurs, M. Macron, en effet, il y a une heure, juste avant que j'entre dans cette salle, j'ai vu ma petite alerte du Monde, M. Macron qui annonce qu'il ne votera pas l'accord sur le Mercosur, qu'il n'autorisera donc pas à conclure cet accord, sachant que jusqu'à encore aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, il disait... maintenant, je suis assez d'accord parce que, du coup, la Commission européenne a réussi à faire des concessions. Mais pour des raisons de politique interne, je vais voter contre. Donc ça dit tout. Ça veut dire qu'en fait, il est d'accord, mais que pour pouvoir ensuite se représenter devant ses citoyens et dire « moi, je ne suis pas d'accord contre le Mercosur », du coup, ça veut dire qu'il joue un double jeu. Et je dis « Monsieur Macron, mais c'est pas du tout le seul à le faire. » Et ça fait aussi... ça donne de l'Union européenne une image qui est cette image de ces distants des citoyens, alors que si les hommes politiques disaient ben, en fait, oui, nous avons adopté ça parce qu'il faut faire des concessions sur tel point, c'est aussi un peu prendre les citoyens pour des personnes qui ne sont pas en capacité de comprendre pourquoi on peut faire des concessions sur tel ou tel terrain. Donc, moi, je tempère un peu cette question de la démocratie. Oui, vous avez raison dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas d'espace public européen. Il n'y a pas de médias européens qui nous permettraient de nous forger une opinion européenne. Il n'y a pas de sujet européen non plus. On reste dans des espaces publics nationaux. On vote pour des raisons nationales. Ça, certainement, c'est un élément d'amélioration. Mais on a aussi notre mot à dire aussi pour faire vivre cette démocratie à l'échelle européenne. Et puis, pour ce qui s'agit des élites, ben alors ça, pour moi, elles ne sont pas pires à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Mais ça c'est mon avis. Et sur votre deuxième question sur l'espéranto, ça, c'est une question... Moi, je ne me suis pas tellement intéressée à cette question de l'espéranto. Oui, en tout cas, ça incarnerait quelque chose d'une dimension européenne. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, est-ce que tout le monde serait d'accord pour apprendre cette nouvelle langue ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un beau projet, c'est sûr. Maintenant, la question de savoir si ça va passer, je crois que ce n'est plus du tout dans l'air du temps, malheureusement. Mais oui, c'était une assez belle incarnation du projet européen. Ça je suis assez d'accord. Et alors, du coup, pour le Mercosur, bah, en effet... pourquoi les Italiens ? Parce que les Italiens, c'est ceux qui étaient contre le Mercosur et qui vont faire basculer la majorité, qui vont permettre la ratification de cet accord. Bah, concrètement, c'est aussi Trump, hein, c'est-à-dire que c'est la prise de conscience que peut-être il faut trouver des débouchés ailleurs, avoir des alliés dans le continent sud-américain. La Commission a priori réussi à un peu améliorer son texte en prévoyant un peu plus de subventions pour les agriculteurs. C'est un pis-aller, c'est sûr. Et on en parlait avec Jean-Siane avant la conférence. C'est sûr que là, typiquement, c'est un endroit dans lequel on a des intérêts divergents. Il y a des pays européens qui, eux, exportent beaucoup de marchandises agricoles et qui disent « moi, j'ai besoin d'aller vendre ailleurs ». Et le Mercosur, c'est super pour ça. Et puis, il y a des pays dans lesquels on n'est pas exportateur de produits agricoles et dans lesquels nos agriculteurs, c'est le cas en France, se disent, en fait, on va se retrouver avec des produits qui sont fabriqués dans des endroits où la main-d'œuvre est moins chère, où il y a moins de normes sociales, environnementales, sanitaires à respecter. Et donc, c'est de la concurrence déloyale, en quelque sorte. Et ça, c'est les projets... les accords de libre-échange, pour le coup, ils ont toujours été formatés sur cette idée qu'il fallait ouvrir des marchés. Mais pourquoi la Commission européenne aussi a tant insisté pour que ça se fasse ? C'est parce qu'ils voient bien que les États d'Amérique du Sud, ils sont à deux doigts de dire aux Européens, ça fait 22 ans que l'accord il est en négociation, hein, ils sont à deux doigts de dire aux Européens, vous savez quoi ? En fait, nous, on va réorganiser nos échanges économiques avec les États-Unis ou avec la zone Asie. Et puis, ne faisons pas... Donc, en fait, c'est toujours un peu... Nous, Français, nous n'avons pas intérêt à ce que cet accord soit conclu, en effet. Et pour autant, ça ne servira pas parce que c'est un domaine dans lequel les décisions se prennent à la majorité qualifiée. Donc la France est en minorité sur cette question. Ça ne répond pas vraiment à votre question.
Ça va assez vite. Est-ce que vous pouvez tous lever le doigt pour qu'on se donne une idée de combien il y a de questions ? Il y en a... Hop.
Alors... Moi, je vais essayer aussi de faire des réponses plus courtes parce que là, je me suis un peu étalée.
Alors, je vais juste aller sur une tranche d'âge différente pour assumer la diversité.
Ça, c'est bien, ça.
Oh, la pression.
Ouais, grosse pression.
Du coup, moi, j'avais une question plutôt sur le droit, vu que vous êtes juriste.
Ouais.
Alors, ça englobe aussi la souveraineté, parce que je pense notamment aux sanctions qu'il y a eu contre les juges de la Cour pénale internationale, et aussi aux sanctions qui seraient apparemment... il y aurait des bruits de couloir de hauts fonctionnaires américains qui parleraient de sanctionner des magistrats français pour la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen ou aussi, je crois, des magistrats allemands. Et donc là, on attaque quand même un domaine qui n'est pas attaqué habituellement. On a souvent des attaques économiques, mais là, comment on peut protéger notre souveraineté sur un contre-pouvoir où on ne s'attendait pas du tout à être attaqué sur l'aspect juridique ? Donc voilà, votre avis là-dessus. Et après, c'est aussi pour recouper sur le droit, le fait que nous, le droit, c'est quand même une valeur hyper importante pour nous. On le voit là, on est hyper étonné de voir que le droit international, il est bafoué comme ça, ou que même notre droit national à nous pourrait être bafoué. Et à quel moment, à quel endroit, on va ajuster et dire, nous, ce qui nous importe plus, c'est nos valeurs, par rapport à des aspects économiques. Finalement, on va dire, stop, on n'accepte plus de faire des compromis parce que ça bafoue trop nos valeurs. OK, on aura des pertes économiques, mais nos valeurs, c'est le plus important. ou est-ce que, enfin, à quel point on va continuer de dire bon bah ok, des droits de douane, ok, ok, mais en bafouant nos valeurs, en dérégulant et en mettant l'environnement en deuxième. Okay. Voilà.
Excusez-moi, j'ai oublié, il y en avait une là. Alors, les organisateurs, ils passent après.
C'est sévère. Hein.
Ouais, non, mais je...
Merci pour votre exposé. Il faudrait une femme de temps en temps. Je suis désolée.
C'est ce que j'allais dire aussi, une petite diversité de genre dans les questions.
Mais je suis désolée, c'est comme ça. On voit dans les circulaires et les plans l'État et Draghi que l'Europe est encore en train de s'organiser à l'intérieur, alors que la Chine est en train de déployer un peu partout un pouvoir à l'extérieur tout en continuant son développement interne, que les États-Unis ne sont plus en train de s'organiser mais en train d'asseoir un pouvoir. Est-ce qu'on n'a pas trois trains de retard là et est-ce qu'on ne peut pas en même temps s'organiser à l'intérieur et asseoir, et faut-il, c'est une deuxième partie de la question, c'est faut-il asseoir une puissance et comment dans le contexte que vous venez de décrire. Voilà, je me permets un dernier bout de question, c'est le Groenland. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les scénarios? Est-ce qu'il vaut mieux négocier pour vous avec Trump? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il le prenne? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est un territoire européen? Je comprends que plutôt non. Et quels sont les armes juridiques ou de force ou de puissance qui peuvent être pertinentes?
Ok, alors vous ne m'en voudrez pas si j'ai oublié des parties de questions et du coup vous me relancerez si c'est le cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions et j'en ai déjà deux avant. Je commence par les deux premières qui m'ont été posées, peut-être rapidement sur les sanctions américaines. Après, ça c'est la question de l'effet extraterritorial du droit, donc... il est possible de résister, pour le dire très rapidement et très schématiquement, en refusant l'application de ces sanctions, au moins sur le territoire européen. En revanche, s'ils sont sanctionnés par, je ne sais pas moi, des gels de leur compte bancaire qu'ils auraient aux États-Unis, a priori, les autorités américaines vont exécuter ces décisions. Donc, c'est plutôt une question de où cette sanction va s'appliquer. Et donc... De territorialité. Votre deuxième question, c'était sur
Les valeurs, la concession valeurs.
Bon, vous avez dit à quel moment on va dire stop et on. En fait, c'est ça aussi, c'est que bien sûr que le droit, c'est une barrière, mais le droit n'est que le reflet de décisions politiques. Le droit est pris sur le fondement c'est des choix politiques, des décisions politiques. Donc, répondre à votre question, ça revient un petit peu aussi à la question de monsieur sur quand est-ce qu'on assume notre puissance, en quelque sorte. Et là, bien sûr que c'est des choix qui sont plutôt politiques. Pour l'instant, la stratégie, mais qui n'est pas une stratégie gagnante du tout face à Trump et face à toutes les personnes qui sont en position de domination, assumées, revendiquées et qui s'expriment, en tout cas qui souhaitent exercer un pouvoir de prédation et de domination. La stratégie, c'est jamais de négocier avec des personnes comme ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. On cherche à négocier pour éviter l'escalade, mais en réalité, ça n'évite pas l'escalade. Ça n'évitera jamais l'escalade, puisque du coup, ça leur donne juste le signal qu'ils peuvent continuer à exercer une pression. Donc, de mon point de vue, oui, il faut être ferme avec Trump. Et bien sûr que quand Ursula von der Leyen est allée négocier, soi-disant, des droits de douane, et qu'en fait, elle s'est juste fait imposer des droits de douane, et qu'il n'y a pas eu de sanctions, de mesures de répercussion, alors qu'on aurait eu les moyens de le faire dans l'Union européenne, peut-être que c'est un tort politique, peut-être que c'est une faute politique. Mais bon, ça, c'est des décisions que moi, je vous donne mon sentiment parce que vous le demandez. Mais bien sûr que c'est de ce dont on discute, de ce dont discutent nos diplomates H24 depuis l'élection de Trump. Qu'est-ce qu'on fait face à Trump? Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui est dans la libération totale de ses pulsions, que rien n'arrête et que, à mon avis, rien n'arrêtera? Il est en roue libre. On va voir, à mon avis, c'est la question qui va se dérouler dans quelques temps, c'est qu'il va se représenter. il va se représenter, et, alors qu'il n'a pas le droit selon la Constitution américaine, mais il va dire, en fait, c'est quoi la Constitution ? C'est moi qui l'interprète. Donc je me représente, et puis si les citoyens américains ne veulent pas voter pour moi, bah, ils ne voteront pas, et donc du coup, ce sera le signal que je dois partir. Mais s'ils votent pour moi, bah, c'est la légitimité populaire. En fait, ce type de personne n'est pas arrêté par aucune règle autre que celle qu'il se donne. Hein. C'est la définition de l'absolutisme. Hein. Je m'absous des règles. Du coup, j'ai oublié vos questions, parce que du coup, sur la... Ah oui, vous aviez dit, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on est toujours en train de s'organiser et du coup, on ne développe pas... ça, oui. L'Union européenne, c'est une création récente. Hein. En effet, qui met du temps. J'étais venue faire une conférence l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, mais sur un rapport... que j'ai coécrit avec un groupe d'experts franco-allemands sur ça, sur les réformes de l'Union européenne, en disant comment on peut renforcer notre capacité d'action. Bon, ben, clairement, il faudrait, mais du coup, ça pose aussi d'autres questions, il faudrait, pour qu'on puisse davantage avancer, parler d'une même voix, il faudrait qu'il y ait plus de décisions qui se prennent à la majorité qualifiée. Concrètement, c'est un peu technique, mais si les décisions se prennent à l'unanimité, vous avez toujours un pays qui dit « je ne suis pas d'accord ». En ce moment, c'est toujours la Hongrie. Et donc, du coup, oui, ça nous empêche. Et à la fois la majorité qualifiée, on voit bien que de temps en temps, ça nous met aussi face à certaines contradictions, qui est que là, pour le Mercosur, les Français ne sont pas d'accord et ils se font imposer une décision dont ils ne souhaitent pas, qu'ils ne souhaitent pas voir advenir. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de passage à la majorité qualifiée, parce qu'il y a encore trop d'intérêts nationaux divergents. Donc oui, c'est une construction qui est lente et on joue avec, déjà pas avec les mêmes règles du jeu que les autres, et puis à partir d'une position qui est une position qui est en construction, alors que les autres sont en effet soit bien installés, hein, les États-Unis c'est un État fédéral qui parle d'une seule voix sur la scène internationale hein, depuis 1787, et puis les Chinois, c'est autre chose, hein, eux ils sont une dictature, donc oui, donc ça peut permettre de mettre tout le monde d'accord assez facilement. Donc oui, nous, on est une construction récente et qui veut être animée par des idéaux démocratiques. Et donc oui, c'est plus complexe.
Alors, avant que tu attaques le Groenland, vu qu'il reste 5 minutes, je vais quand même prendre la minorité pas écoutée, qui est majoritaire à 52% de la population générale.
La minorité opprimée. Ça rejoint le Groenland. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a comme moyens ? Qu'est-ce qu'on a comme volonté ? On dit beaucoup, je me dépêche, hein, sur les constats, que on s'est complètement fait dépasser par la réalité sur la défense. Mm-hmm. Il y a quand même une trentaine d'années, il y a eu une force d'action rapide qui était un mariage entre une partie de l'armée française et une partie de l'armée allemande de l'époque. Il y a eu une brigade franco-allemande. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on était aussi naïf que ça. Mm-hmm. Est-ce que l'endroit, entre guillemets, où on en est maintenant, c'est quelque chose d'économique, de finalement un manque de volonté qui s'est greffé parce que d'autres considérations étaient là et qu'on entend bien qu'on est toujours dans le « un peu, mais quand même ». Sur cette histoire de défense, et ça vaut pour l'Ukraine comme pour la façon dont on va peut-être avoir à réagir vis-à-vis du Groenland, quid de cette Europe de la défense.
Oui, alors vaste question, les deux, hein, Groenland plus défense, en effet, qu'on peut un peu traiter de la même, enfin en tout cas dans un seul endroit. Bon, les scénarios face au Groenland. Bien sûr, déjà le Groenland a un statut spécial, hein, c'est une partie du Danemark, mais dont le Danemark avait choisi de. Enfin, qu'avait choisi de retirer du champ d'application du droit de l'Union européenne. Donc, c'est un territoire autonome dans lequel on pourrait soutenir que l'Union européenne n'a pas sa part à jouer. Par ailleurs, deuxième chose, il y a une clause... Donc, si on met ça de côté, et si le Danemark appelle à réagir en commun, appelle les autres États, il y a une clause dans les traités européens qui est une sorte de clause de solidarité mutuelle, mais qui n'est pas aussi forte que dans le traité de l'OTAN. Ce qui serait quand même hallucinant, hein, c'est que quand même le traité de l'OTAN dans lequel nous sommes avec les États-Unis, si les États-Unis attaquent quelqu'un de leur propre camp, c'est quand même incroyable. Donc, est-ce que cette clause de solidarité pourrait jouer ? Ça, c'est un des scénarios possibles. Mais en tout cas, ce n'est pas une réponse automatique, comme c'est dans le cadre de l'OTAN. Mais il faudrait convenir que si Trump annexe le Groenland ou attaque le Groenland, bah, du coup, le traité de l'OTAN est dissous de fait.
Je tiens à vous dire que... donc,
En mars ?
En mars, au début, il devait intervenir en novembre. Okay. Et je lui dis, question d'agenda, est-ce qu'on peut le faire passer en mars ? Et il me dit, ah, ce sera peut-être trop tard.
Ouais.
Donc, il bosse à l'OTAN, il m'avait déjà dit ça.
En effet, les personnes qui sont dans cette sphère de la défense sont très, très inquiets sur le sort de l'Alliance Atlantique. Hein. De toute façon, Macron avait dit il y a quelque temps que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il formulait un constat qui était assez en tout cas réaliste, quoi. Et pour la question de l'Europe de la défense, il nous faudrait un peu de temps. Alors la question de pourquoi ça s'est pas fait avant, un mix de, en effet, d'idéalisme, de on veut pas voir que c'est possible que ça arrive. On croit fortement, parce que aussi pendant très longtemps. Ceux qui étaient en résistance, c'était les Britanniques, qui étaient très, très attachés à la solidarité atlantique et qui ne voulaient pas entendre parler d'un déploiement de la défense autonome, différencié de l'OTAN. Voilà, il y a aussi ça qui a joué beaucoup. Après, il y a des questions de certainement de financement, de choix politiques. Là, les raisons, elles sont vraiment multiples sur la question de savoir pourquoi. Et puis la souveraineté nationale, tout simplement. C'est-à-dire que mettre en commun la question de la défense, c'est faire un pas encore plus vers le fédéralisme dont plein ne veulent pas. Et donc là, je pense que tout le monde est assez d'accord sur le fait que tout seul, on ne peut pas résister, ni à la Russie, ni maintenant aux États-Unis, peut-être ni demain à la Chine, et qu'il faut vraiment mettre en commun nos forces et s'allier. Mais là, il nous manque un peu de temps, en tout cas. Il faudrait vraiment construire des capacités de défense, ça prend du temps et ça demande un peu d'argent. Il faut construire, il faut qu'il y ait des usines qui fabriquent. Et donc oui, il faut là, si vous discutez un peu avec les hommes politiques, justement des diplomates, ils vous disent, ça y est, on s'est rendu compte que nous, les végétariens, on est en train de se faire croquer par les carnivores qui sont encore un peu plus cannibales en plus, pour reprendre l'image que je donnais tout à l'heure. Et donc, la seule question, c'est est-ce qu'on aura assez de temps pour montrer les dents aussi et pas se faire manger tout cru, en tout cas, être capable de résister, quoi. Donc, c'est un peu... C'est pas très joyeux comme phrase de conclusion.
Il est 22h.
Ah, 21h.
Oui, il est l'heure. Est-ce que... Alors, ceux qui veulent, je rappelle qu'il y a une caisse et que la prochaine, c'est pas inintéressant de le mettre, c'est où en sont nos solidarités le 3 février. On parle de solidarité en local après avoir parlé de ça. Est-ce que pour ceux qui sont OK, on prend les deux dernières questions et puis voilà. Mais vite! Donc, allez-y. Vite.
Okay. Bonsoir. Je suis né en Australie depuis quelques semaines. Nous avons la loi contre les réseaux sociaux pour les enfants. Et en Europe, maintenant, les réseaux sociaux sont un grand risque pour la souveraineté. Toutes les entreprises sont américaines, ou chinois. Mais ici, la plupart sont américaines. J'ai trois nationalités, australienne, irlandaise et suisse. Regardez la crise du Credit Suisse. C'était la deuxième banque de la Suisse. Ils ont tombé à cause de les réseaux sociaux. C'était un problème pour quelques mois avant la banque est tombée. C'était entre les plus grandes banques de l'Europe. C'était le Credit Suisse, le UBS, les banques anglaises, sont comme ça. Et les réseaux sociaux sont un risque pour les banques, pour les élections à tout niveau, en Europe, en France, en Irlande. Je pose la question. J'ai publié un blog moi-même, Juristgate. C'est les scandales transfrontaliers. C'est interdit par les réseaux sociaux. Les juristes ont demandé le censorship du blog. Et c'est très facile pour un juriste de faire le censorship d'un site web à propos des juristes. C'est la même chose pour un site web à propos des réseaux sociaux. C'est interdit de discuter les réseaux sociaux. C'est interdit de suivre l'avion d'Elon Musk. C'est comme ça. Vous êtes en accord, c'est le risque le plus grand, c'est les réseaux sociaux.
Oui, alors, je ne sais même pas si c'est vraiment une question. Je pense qu'on ne peut qu'être d'accord avec l'énorme danger que ça présente. Voilà, que l'Union européenne tente de réguler, est en train de faire machine arrière sous pression à des entreprises américaines, en effet. Mais j'ai pas beaucoup de... Ou alors ça nous entraînerait vraiment très très loin. Mais je suis d'accord.
Ouais. Je mets juste le point. Il y a un ou deux ans, tu nous avais expliqué que Facebook avait dit on va le réguler. Et puis, je ne sais plus, quelqu'un avait dit dans ce cas-là, on vous coupe. Et le marché européen, et du coup, il s'était aligné. Est-ce qu'on va avoir plus de mal à le faire aujourd'hui, hein? C'est sûr.
Vous vouliez toujours
Non, mais c'est simplement des remarques que... Non, mais c'est à la fois une question et une remarque. Bon, alors la question, mais je reviens quand même à la remarque. Trump rejoint Poutine dans la détestation de l'Europe occidentale. Poutine a dit une chose, la plus grande tragédie de la Russie, c'est l'effondrement de l'URSS. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout content de toutes ces républiques qui entourent Moscou. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne l'Europe, ça ne vient pas de Trump spécialement. Du temps de Henry Kissinger, Dear Henry, il disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Donc finalement, par contre, alors en ce qui concerne la défense, et c'est là une question, les pays comme la Pologne, qui vient d'avoir un président ultra-trumpiste, qui défend à 1000% de sa sécurité avec des armes américaines. Le Danemark, où cette pauvre première ministre a un burn-out, et le premier ministre du Groenland dit « ça suffit », les armes fonctionnent avec l'autorisation des États-Unis. Si Washington dit « niette », eh bien le Danemark ne sort pas ses armes. Donc, en ce qui concerne la défense, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, c'est vraiment là où la souveraineté est nullissime. Voilà.
Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite, comme tu le disais, merci d'abord, Gaëlle. Merci pour vos questions. Désolée de ne pas pouvoir toutes les prendre et désolée Martin, j'ai fait du favoritisme. Et donc je vous disais, je vous donne rendez-vous, il y a plusieurs cycles de conférences, mais dans ceux du mardi, qui ont été faits le jeudi aujourd'hui, il y a la prochaine conférence le 3 février sur où en sont nos solidarités, le combat d'ADT Carmonde, qui sera présenté par Axel. Alors j'ai Axel Brodier Dolino, je suis mauvaise pour prononcer. Vous êtes bienvenus, c'est ici, même condition. Et on essaye de participer au discernement et en tout cas avoir une vision un peu éclairée de la politique telle qu'elle se présente à nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de participer si vous le pouvez. Et ce sera apprécié. Merci. Et si vous voulez être dans les listes de diffusion des conférences, outre de prendre le fascicule, vous pouvez nous laisser.